Nous sommes sur un vaste plateau qui surplombe le lac d'Eda et nous allons partir à la découverte d'une espèce animale qui alimente bien des contes, des légendes, des superstitions, des histoires. Certains l'aiment, d'autres le détestent profondément. Je ne vous dis pas tout de suite de quel animal il s'agit. On va d'abord dans quelques instants retrouver la personne qui va être notre référent à travers cette balade et qui va nous en parler en détail. C'est parti pour la balade H2O pleine de mystères.
Découvrir l'Auvergne.
H2O vous emmène en balade.
Mathieu Bernard, bonjour.
Bonjour.
C'est vous, hein, notre personne référente à travers cette balade H2O. Je le disais, on va parler d'un animal dont on ignore en fin de compte tout quand on ne se penche pas réellement en détail sur cet animal-là. Il représente quoi, sans nous dire tout de suite de quoi il s'agit? Pour vous, ça évoque quoi?
C'est à la fois le mythe, un peu le fantôme de Dame Nature. On sait qu'il est là et que nous, on ne le verra pas, mais que lui va peut-être nous voir avant. Voilà, un peu une espèce un peu mythique quand même. Il y a de l'ordre du mythe avec cet animal-là.
Très bien. Donc on ne lève pas tout de suite le voile, on laisse planer le mystère et on va progressivement, bien évidemment, évoquer l'animal en question qui a été aperçu ici en Auvergne. Alors, je rassure tout le monde, il ne s'agit pas de la galipote.
Non,
ni
encore.
Du dahu.
Encore.
On n'est pas dans la légende totale et on va découvrir cela dans un instant.
Découvrir, observer,
s'évader, respirer,
contempler. H2O en balade.
Mathieu, nous allons lever le voile donc sur cet animal mystère dont on n'a pas encore donné le nom. Ben, je vous laisse le soin de nous dire de qui il s'agit.
Ben, il s'agit du loup.
Ouh là là, le mot est lâché.
Le mot est lâché, c'est exactement ça, le mot. Presque. Mmh. C'est presque même plus l'animal, c'est le mot. Voilà, alors si on veut faire le scientifique, c'est Canis lupus, et qui est son nom latin, et qui est aussi le nom latin de nos chiens, puisqu'en fait, nos chiens domestiques et le loup ont des ancêtres communs, pas si éloignés que ça. Voilà, donc une espèce, qu'on disait tout à l'heure, un peu mythique, et finalement connue et très mal connue, ou qu'on a l'impression de bien connaître.
C'est le but de cette balade d'ailleurs, hein, c'est d'expliquer qui est le loup et pourquoi il alimente autant de débats. On a choisi un lieu, enfin c'est vous qui l'avez choisi, Mathieu, qui surplombe donc le lac d'Eda, on est sur un grand et vaste plateau là. Pourquoi ce choix de site?
Alors il est pas hasardeux complètement, il ressemble au faciès des habitats préférentiels du loup qu'on connaît aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Et puis historiquement, c'est aussi un des secteurs, pas très loin d'ici, où il y a eu une donnée de loup il y a quelques années, qui était à l'époque une des premières obtenues dans le département du Puy-de-Dôme. Voilà, donc, bizarrement, il est passé sur ces secteurs un peu tranquilles, où il n'y a pas grand monde, où il peut circuler à couvert, et puis où ses proies potentielles sont aussi présentes.
Alors, vous dites qu'il a été observé, ça veut dire qu'en fait, on arrive potentiellement à suivre l'évolution des loups potentiels sur un territoire comme le nôtre?
Oui, même si c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. En fait, il est très difficile d'évaluer précisément la population du loup, comme d'ailleurs beaucoup d'espèces animales sauvages. Mais lui, c'est particulièrement vrai parce que la capacité de dispersion est extrêmement importante. Un loup, en particulier les loups isolés qui recherchent un nouveau territoire, les jeunes qui se dispersent, peut parcourir 100 à 150 km dans la journée. Alors, pas en ligne droite, mais ça veut dire qu'un loup qui serait aux portes de Lyon le mardi matin, le mercredi matin, il est aux portes de Clermont-Ferrand s'il veut bien pousser tout droit.
Les loups qui potentiellement peuvent traverser notre territoire, d'où viennent-ils exactement?
D'abord, le retour du loup, il est naturel. Je pense que ça, c'est le premier point qu'il faut bien repréciser. Ouais. Il n'y a jamais eu de réintroduction du loup en France. Les premiers loups officiellement observés, c'est 1992 dans le parc national du Mercantour, donc dans le sud-est de la France. Et ces loups reviennent naturellement d'un pays où ils n'ont jamais disparu, c'est-à-dire l'Italie. La chaîne des Apennins et les Abruzzes, donc la grande chaîne centrale de la botte italienne, a toujours accueilli le loup. Et cette population est assez dynamique et elle pousse petit à petit vers le nord. Donc elle a atteint les Alpes, elle a franchi les Alpes. Et donc, par effet de ricochet, les loups qu'on observe dans le massif central ont une origine alpine. Ils sont donc Canis lupus italicus, la sous-espèce italienne.
Ok, mais alors il y a quand même un obstacle qui n'est pas petit, c'est la fameuse autoroute A7. Il faut pouvoir la traverser, cette autoroute.
Et puis on peut même rajouter le TGV, le Rhône et compagnie. C'est là où le loup est une espèce qui, et ça participe au mythe et un petit peu à l'amour ou désamour de cette espèce. C'est une espèce certes sauvage, mais qui est capable d'être proche de l'homme, sans qu'on la voie, et qui est capable de se soustraire de ses obstacles. Alors bien sûr, de temps en temps, un loup va se faire taper sur la route ou tuer par un train. Mais l'air de rien, ils arrivent à trouver des points de passage. C'est aussi un animal qui nage très bien, donc traverser des rivières à la nage, il peut le faire s'il y a besoin.
Même le Rhône. Hein,
voilà. Donc il va pas être feignant. Hein. Il va pas prendre de risques. Il va être feignant. Au contraire, il va aller prendre des ponts, en fait, hein, tout simplement. Effectivement, ça peut paraître incroyable, mais ces loups ont franchi la vallée du Rhône avec tous les obstacles naturels ou de l'homme qu'on y rencontre.
On a affaire à un animal étonnant et c'est ce qu'on va voir à travers cette balade, parce que capable effectivement de s'adapter aux obstacles qu'il a à franchir, et puis grand voyageur, et puis supportant malheureusement l'image négative qu'il véhicule et l'animosité qui peut tourner autour de cette image et cette volonté absolue de vouloir le détruire. C'est un petit peu ce que dit d'ailleurs le nouveau plan loup, on aura l'occasion d'en parler également. En tout cas, on va découvrir cela à travers cette balade et on est ravis de la faire avec vous, Mathieu Bernard, parce que vous êtes, je ne l'ai pas précisé, président du groupe Mammalogique d'Auvergne, un groupe qui étudie justement les mammifères. Et c'est grâce à votre œil d'expert qu'on va essayer de réhabiliter le loup.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Mathieu, nous sommes sur un vaste plateau qui surplombe la commune d'Eda. On n'est pas très très loin de Loye également et on s'intéresse avec vous à un animal malheureusement mal aimé par pas mal de nos concitoyens. Il s'agit du loup. Quand on parle du loup, on parle d'un animal qu'on a peu de chances de croiser finalement dans sa vie. Ce qu'on peut voir potentiellement, ce sont des traces. Là, on est juste à côté d'une trace. Alors, on a une chance sur 1000 que ce soit réellement un loup, mais ça peut prêter à confusion, non ?
Oui, totalement. En gros, pour la faire assez simple, distinguer une trace du loup d'un chien est globalement impossible. En fait, souvent, on a des gens qui nous envoient des photos, regardez, est-ce que ça pourrait pas être du loup ? C'est une grosse trace de type chien. Déjà, le loup fait pas forcément des traces plus grosses que certains grands chiens. Et puis, en fait, surtout, il nous faut la piste complète. L'allure, la manière de se déplacer, de se mouvoir du loup est différente de celle du chien. Il va moins fureter, il va être plus rectiligne. Voilà, il y a plein de critères qui permettent de conclure plus ou moins qu'on est sur du loup. Bien évidemment, les crottes aussi peuvent permettre de différencier. Mais voilà, ça reste toujours un faisceau d'indices. Donc c'est un peu une frustration, et c'est peut-être là que commence le mythe de cet animal, c'est que pour beaucoup d'espèces de mammifères sauvages, la trace est un bon indice. On est sûr qu'on a affaire à du cerf, à du chevreuil, à du sanglier, à de l'écureuil. Mais sur le loup, eh ben, il va y avoir toujours une part de doute, et qui doit rester, et qui doit vraiment rester. C'est un faisceau d'indices, ce qu'on appelle le bruit de fond. C'est-à-dire que voilà, on a des indices, une piste qui pourrait le faire à tel endroit et une autre à tel endroit, etc. Parce que si on se basait sur les observations, comme on dit de corps, ça n'est pas très beau ce terme, mais réelles de loup en direct, eh ben, il n'y en aurait quand même pas tant que ça, effectivement, parce que ça reste un animal extrêmement discret.
Celui ou celle qui se retrouve effectivement à observer un loup peut tout de suite aller jouer au loto le soir même.
C'est quand même une chance qui ne se présente pas souvent dans sa vie, sauf à être dans des cas vraiment particuliers, sur un gros suivi, etc. Mais la rencontre hasardeuse, eh ben, là, elle est vraiment hasardeuse, effectivement. Mais ça arrive quand même. Les observations, y en a. Il y en a aussi de plus en plus, parce qu'il y a plus de loups quand même qu'il y a quelques décennies. Mais voilà, ça reste quelque chose de ponctuel, en général assez, assez fugace, furtif. Voilà, et puis il y a aussi aujourd'hui des observations qui sont de plus en plus fréquentes dans des sites où pour le coup c'est l'homme qui est venu empiéter un petit peu sur le territoire du loup. On a chaque hiver maintenant, entre autres dans les Alpes, des observations de loups sur des pistes de ski. En fait, le loup ne fait que traverser un aménagement qui est sur son territoire.
C'est ce que j'allais dire, on est chez lui là.
Exactement.
Autre détail important, quand on dit il y a de plus en plus de loups, il faut savoir relativiser quand même les chiffres.
Oui, complètement.
Parce qu'en France, certes, on peut avoir des loups, mais c'est pas non plus des chiffres mirobolants.
Alors les évaluations sont toujours soumises à caution au regard de tout ceci, bien évidemment, mais on est de l'ordre de 500 loups en France. Voilà, aujourd'hui, c'est l'évaluation de la population. Je suis peut-être pas précis à l'individu près, mais voilà, de l'ordre de 500 loups en France, ce qui est quand même à relativiser par rapport aux 68 millions d'habitants qu'il y a dans notre pays sur deux pattes.
Et en sachant que c'est concentré dans des zones relativement reculées.
Voilà, donc en gros les Alpes, hein, l'arc alpin, ça remonte un petit peu sur le Jura maintenant le Massif central, essentiellement le sud du Massif central, et puis il y a une population dans les Pyrénées également, avec la population espagnole derrière.
Ce qui doit nous permettre de relativiser quand même la présence du loup sur notre territoire. Avoir du loup, c'est pas la fin du monde. Il y a des territoires qui arrivent à gérer la présence. C'est ce qui se passe souvent en Italie. Vous êtes allé par exemple dans les Abruzzes, où il y a en plus du loup, il y a de l'ours également. Et on arrive à vivre avec.
Oui, après, c'est ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Et entre autres pour le monde agricole, il ne faut pas non plus se voiler la face. Effectivement, le loup est un prédateur et donc il va aussi aller à la facilité. Donc effectivement, un troupeau de moutons non gardés, ben, j'ai tendance à dire un peu vulgairement que c'est le McDonald's du loup. Donc en fait, et en plus, c'est gratuit. C'est sûr que si on commence à protéger les troupeaux, alors il y a plein de méthodes, t'as pas forcément rentré dans le détail de protection, mais évidemment que ça devient plus difficile. Mais évidemment qu'on peut vivre avec le loup, comme on peut vivre avec n'importe quel prédateur. On parlait de l'ours à l'instant, avec le lynx, c'est exactement la même problématique. Ce qui est très compliqué sur cette espèce, c'est que même en connaissant parfaitement sa biologie, d'abord on apprendrait encore des choses sur sa biologie, mais en plus l'acceptation, puisqu'on est bien dans une notion d'acceptation, se fait par des choix de société, par des choix individuels et collectifs, et également par des politiques publiques et des réelles aides de politiques publiques sur certaines actions qui sont efficaces pour permettre la cohabitation.
Et de gestion et d'évolution agricole aussi, parce que le pastoralisme a connu une expansion phénoménale quand même.
Ça c'est vraiment intéressant, c'est ce qui m'avait marqué moi le plus dans les Abruzzes, c'est la taille des troupeaux. C'est-à-dire qu'un troupeau moyen de brebis aujourd'hui à l'alpage dans les Alpes, c'est 3000 têtes. On a la chaîne des Puits qui n'est pas très loin, on est dans cet ordre-là aussi, hein, entre 1500 et 3000 têtes. Les mêmes troupeaux en Italie, par berger, c'est 400 têtes maximum et une dizaine de chiens de protection. Voilà. Donc forcément, le loup il vient moins gratter le troupeau quand il a 10 chiens tout de suite et que les loups sont un peu plus dispersés. Mais c'est vrai que c'est un autre mode de travail, c'est vrai que c'est des heures de travail différentes, mais c'est un choix politique et stratégique. Et puis, ce qu'on peut juste préciser derrière, c'est que ce n'est pas forcément un choix mauvais qu'ont fait les Italiens. Parce que derrière, ils ont aussi créé tout un système économique. Et aujourd'hui, ces éleveurs vivent, entre autres, de la vente directe de leurs produits aux gens qui viennent observer le loup et l'ours dans le parc des Abruzzes, entre autres.
H2O en balade. H2O. Sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes en compagnie de Mathieu Bernard, président du groupe Mammalogique d'Auvergne, avec qui nous parlons d'un animal qui alimente bien des polémiques, bien des débats, bien des échanges parfois un peu houleux. Il s'agit du loup. Que sait-on exactement du loup en Auvergne, passage, présence permanente, donc ce qu'on appelle les ZPP, les zones de présence permanente?
Alors le loup est maintenant connu en Auvergne depuis une vingtaine d'années, les premières observations contemporaines, hein, on parle bien sûr pas de la présence ancienne. On sait qu'on a des individus qui donc régulièrement viennent des Alpes, viennent de l'est du pays. Longtemps ça a été que du passage ponctuel. On a eu quelques implantations un peu plus durables, ce qui a donné lieu à des créations donc, de ces fameuses ZPP, qui sont une écriture administrative, hein, une zone de protection permanente, qui offre, il faut quand même l'expliquer, des conditions particulières au monde agricole pour de la protection, des aides à certaines protections, etc. Essentiellement dans le massif du Cantal. Alors c'est pas vraiment un hasard, c'est un département où il y a un peu moins de monde, et puis il y a surtout aussi une ressource alimentaire importante en grands herbivores sauvages, que ce soit en cerf, chevreuil ou chamois ou mouflon. À ce jour, il n'y a plus de ZPP active aujourd'hui en Auvergne, ce qui ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y en aura pas une ou que dans 6 mois, il n'y en aura pas une. Hein. Voilà, ça varie assez rapidement. Et puis, les dernières données que l'on obtient, elles sont maintenant annuelles. Hein. Chaque année, il y a des observations ou des indices retenus par le réseau Loup-Lynx de l'Office français de la biodiversité, donc qui regroupe à la fois des associatifs, le monde de la chasse, l'OFB, qui permet voilà, d'obtenir des indices comme ça. Et elles concernent tous les départements, y compris le département de l'Allier, puisque les zones de plaine sont aussi maintenant régulièrement traversées en direction du nord-ouest du pays.
Alors, traversées, mais pas forcément des lieux propices à accueillir, en fin de compte, une meute, parce qu'on a l'image du loup. Est-ce que le loup est fait pour vivre seul ou est-ce qu'en fin de compte, il est fait pour vivre en meute?
Les deux, mon capitaine. Ça dépend de sa période de vie. Un peu comme l'adolescent aimerait être isolé dans sa chambre, le loup adolescent, lui, va chercher un territoire pour s'implanter, éventuellement y rencontrer un partenaire et fonder éventuellement une nouvelle meute. Donc la meute, c'est bien l'élément de vie durable du loup. Ils sont en meute, mais par contre, les jeunes de l'année doivent, eux, se disperser. Donc, essence.
Alors, quand ils se dispersent, ils peuvent avoir affaire à des blaireaux, comme ceux qu'on entend derrière nous, là, tout de suite. On va les laisser passer, mais on va continuer quand même, parce que c'est une illustration de ce que doit subir aussi le monde sauvage, et en particulier les grands prédateurs. Hein. C'est se frotter aussi à l'ultra-présence humaine.
Complètement, permanente. tout le temps. Il n'y a pas un endroit où il n'y ait pas un bruit, une odeur. On oublie aussi l'aspect olfactif très important pour ces prédateurs.
Le bruit et l'odeur.
Le bruit et l'odeur. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est il faut se mettre à l'image là et puis se dire qu'il a dû un loup aurait pu avoir passé un paquet sans que nous on le voit. Donc pour revenir à ce que je disais, les passages de loups aujourd'hui en Auvergne sont essentiellement des animaux en dispersion, en recherche de territoire. À ce jour, il n'y a pas eu d'implantation de meute sur le territoire auvergnat. Il n'y a jamais eu de reproduction du loup encore certifiée sur les départements auvergnats. Et puis, si on élargit, si on dézoome un petit peu à l'échelle du massif central français, ça fait donc maintenant 20-25 ans qu'on a des indices de présence assez réguliers du loup. Et la première reproduction certifiée du loup dans le massif central français, dans le parc national des Cévennes, donc en limite Lozère-Gare, au sud de notre région, ont été obtenues il y a maintenant juste 2 ans. Donc l'implantation, il y a quand même un gap, il y a quand même une marche importante entre des observations ponctuelles du passage et l'implantation et l'installation durable d'une meute pour s'y reproduire.
Alors, j'essaie de me mettre à la place d'un individu isolé, donc un ado, hein, comme vous l'avez dit. Il faut qu'il soit motivé, hein, quand même, pour essayer de trouver un territoire. Surtout qu'il aura de fortes chances de ne pas y trouver une femelle s'il s'agit d'un mâle et de fonder donc une famille, voire une meute. Hein.
Complètement. Alors, c'est un phénomène qui est bien connu chez cette espèce. Pour le coup, c'est un des aspects qu'on connaît mieux du loup. Grâce aux techniques modernes, entre autres des suivis qui ont été faits avec des balises Argos posées sur des individus. C'est-à-dire que ces jeunes vont effectivement se disperser, parfois très loin. Il y a eu des observations l'année dernière en Bretagne, dans le Finistère ou en Normandie. C'est souvent des mâles qui se dispersent comme ça. Et si tout se passe bien, s'ils ne meurent pas dans ce périple-là, il peut, et qu'ils ne trouvent pas effectivement de femelles au bout, il va y avoir un retour, en fait. Et donc, l'implantation va se refaire un peu plus proche du foyer familial, j'allais dire, mais c'est un peu exagéré. Mais il n'empêche que cette capacité à se disperser à de très grandes distances leur permet de sonder des territoires, leur permet de découvrir éventuellement des zones qui pourraient s'avérer favorables dans quelques temps, parce qu'il y a des proies, parce que c'est tranquille. Et puis parfois, ça donne des choses auxquelles on ne s'attend pas, du loup de souche italienne, donc le Canis lupus italicus, qui a traversé tout le massif central, qui est arrivé dans les Pyrénées-Orientales et qui s'est mis en contact avec des loups de la sous-espèce espagnole de l'autre côté. Donc finalement, ça fait partie aussi de la dynamique de l'espèce et ça peut permettre parfois à des populations éloignées de se connecter et d'avoir un brassage génétique important pour la diversité et la richesse de cette population.
H2O vous emmène en balade.
Nous vous proposons une balade H2O un peu particulière à travers les plateaux qui surplombent Eda. On voit le Sancy, on est dans un beau milieu dans lequel on aimerait croiser un animal qui nous intéresse à travers la balade H2O. Il s'agit du loup qu'on évoque avec vous, Mathieu Bernard. Vous êtes président du groupe Mammalogique d'Auvergne. On évoque donc la présence, en fin de compte, du loup sur le territoire français. On pourrait élargir le spectre en parlant des grands prédateurs en général, le loup, le lynx, l'ours également. Et la place de ces grands prédateurs, en fin de compte, dans notre environnement aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne sont pas toujours loin de là les bienvenus, quelle que soit l'espèce d'ailleurs.
Oui, c'est un peu systématique. Alors un peu basiquement, on pourrait dire qu'on les considère comme des concurrents, ou qu'on les considère peut-être que leur côté mystique, leur côté discret nous fait un peu peur. En fait, on a aussi
et encore le poids des légendes et des mythes.
Complètement, hein. On le ressent, mais version XXL. Et puis, je crois que c'est surtout des animaux qui sont libres. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour l'espèce humaine, de se dire que l'animal fait ce qu'il veut. Je pense qu'à part le chat domestique qui finalement fait ce qu'il veut aussi, tous les autres animaux qu'on a domestiqués, y compris le chien d'ailleurs, proche cousin du loup, en fait, cette forme de la domestication, la capacité à se dire qu'on veut que ça soit bien toléré à un endroit et pas à un autre, mais on pourrait élargir au-delà des prédateurs. Hein. La présence du cerf, par exemple, n'est pas souhaitée partout en région Auvergne. Au final, c'est vraiment une question d'acceptation. La question dépasse de savoir s'ils ont leur place. Parce qu'ils l'ont aujourd'hui dans des contextes où on voit des populations de cerfs ou de chevreuils ou de sangliers qui posent des problèmes dans certains milieux agricoles. Évidemment, ils ont leur place parce qu'eux ont une capacité de régulation de ces populations qui est particulièrement importante. Et ça a été mis en exergue et c'est connu depuis des années. En fait, c'est juste notre question d'acceptation qui est éprouvée avec ces animaux-là. Le fait de se dire qu'on accepte de les croiser, qu'on détruise un petit peu les légendes aussi. Le risque zéro n'existe pas, mais on est quand même très loin du petit chaperon rouge. Très, très, très loin. Dans le parc des Abruzzes, plus de 600 loups, zéro attaque depuis 150 ans, 200 ans. Mmh. Voilà, quand on fouille vraiment la bibliographie, les attaques de loups, ben, il y en a finalement assez peu. Il y en a, elles concernent souvent des individus malades, elles viennent souvent de pays où la source d'origine peut être douteuse, je pense à la Russie en particulier, ou alors de légendes très anciennes, typiquement la bête du Gévaudan, dont on ne sait toujours pas finalement ce qu'elle était et qu'on ne saura probablement jamais de quoi il s'agissait.
D'autant que le loup, depuis autant de décennies, pour ne pas dire de siècles, a bien compris qu'en fait l'homme n'était pas un ami pour lui. Il nous considère plus comme un prédateur qu'autre chose, et il n'y a qu'à voir l'attitude souvent qu'adopte un loup lorsqu'il est en contact avec les humains. Quand on voit certains documentaires, on voit tout de suite qu'il se met en position plutôt d'animal effrayé avec la queue entre les pattes.
Alors il y a de ça. Il faut aussi être honnête, c'est que ce loup, il est obligé de s'adapter au contexte du moment. Et donc parfois, ils font preuve d'une... Je ne sais pas si c'est du courage de leur part, mais d'une certaine proximité avec nous qui peut effectivement surprendre. L'élément déterminant, c'est effectivement de se dire l'image que l'on a du prédateur loin, éloigné, au fin fond de la forêt, la taïga inaccessible. Non, on est très loin de ça. On est sur un animal qui peut vivre à notre proximité. Mais il est vrai que globalement, le loup, comme d'autres espèces, considère le bipède comme un prédateur. Faites une expérience juste avec même un renard ou un lièvre, ne serait-ce qu'un lièvre. Vous l'observez depuis votre voiture, ça ne bougera pas. Vous sortez, vous vous mettez sur deux pattes, l'animal va détaler à des kilomètres. En fait, c'est effectivement des générations et des générations qui ont été marquées par le fait que le bipède est un prédateur. Voilà, et en jouant là-dessus, on peut permettre une cohabitation. Parce que finalement, ça veut dire aussi que la présence, par exemple, de l'homme à proximité des troupeaux, pour reprendre la problématique agricole, est finalement une dissuasion qui marche assez bien dans 99% des cas. Bien sûr qu'il y aura quelques cas problématiques, des cas un peu particuliers, des configurations de paysage qui font que les attaques vont être facilitées ou au contraire plus faciles de lutter contre. Mais notre simple présence marche très très bien. On a évoqué tout à l'heure les Abruzzes. En fait, les Italiens ont juste compris le truc que c'est en mettant du monde dans les montagnes, en ayant des bergers permanents et des chiens, qu'en fait ils limitaient les attaques.
Et en évitant l'élevage intensif et des hectares laissés aux animaux sans surveillance humaine.
Il y a même un cas particulier dans les Abruzzes, c'est que le cerf a été réintroduit pour assurer la ressource alimentaire du loup. Alors ça paraît complètement délirant vu de l'image française, et pourtant ça marche. C'est-à-dire que le loup va aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, comme tout prédateur, le plus souvent la facilité. Et donc s'il y a plus de moutons que de cerfs à manger sur le territoire, eh bien, il va aller aux moutons, surtout s'ils ne sont pas protégés, qui sont encore plus faciles à manger que les cerfs. Il y a aussi un autre élément, on parlait tout à l'heure de la dispersion des individus isolés. Les individus isolés vont aussi attaquer des proies plus petites, et donc un mouton est plus facile à tuer quand même qu'un grand cerf. A contrario, quand on a des meutes bien installées, bien stables, non dérangées, pour parler clairement, qui ne prennent pas des coups de douce tous les 4 matins, eh ben elles vont au contraire aller taper sur des animaux un peu plus grands, aller prédater du cerf, des grands mâles de mouflons ou de chamois, et également, on oublie souvent de le dire, participer à la régulation de ces populations, mais aussi à leur meilleur état de santé, puisque bien évidemment, c'est les plus faibles qui sont le plus souvent prédatés en premier.
Et avoir un impact positif sur l'environnement, oui, associé aussi. C'est on a tout... l'exemple aux États-Unis. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir, parce que l'exemple mérite quand même d'être cité.
Totalement.
C'était pas forcément... Si, il y avait des loups aussi, il y avait des coyotes également, je crois. Et donc, comme on vient de nourrir la curiosité de celles et ceux qui nous suivent à travers cette balade, eh bien, on va lever le voile sur cette histoire qui est vraiment assez étonnante.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes en compagnie de Mathieu Bernard pour la balade H2O. Mathieu Bernard qui, je vous le rappelle, est président du groupe Mammalogique d'Auvergne et avec qui on parle du loup, grand prédateur et malheureusement aussi à l'origine de nombreux débats. On ne lui a pas vraiment laissé la place encore dans notre esprit et dans notre société humaine aujourd'hui, en tout cas chez nous. On a l'occasion de découvrir grâce à vous, hein, Mathieu, qu'il y a des mythes dont il faut tordre le cou une bonne fois pour toutes, qu'il est compliqué de comprendre en fin de compte la biologie du loup et l'intérêt que peut représenter la présence d'un grand prédateur comme lui sur un environnement comme le nôtre. Et pourtant, il existe des exemples qui attestent qu'en fin de compte, avoir des grands prédateurs sur son territoire peut être une valeur ajoutée Et avoir même un impact positif pour l'environnement.
Oui, complètement. Sur les... Alors, il y a l'exemple le plus connu dans le parc national du Yellowstone aux États-Unis, où des loups ont été réintroduits après avoir été éradiqués, et où ils ont eu un effet positif en fait, sur la végétation, indirectement, parce qu'ils ont diminué les densités de grands herbivores, et donc l'impact de ces herbivores sur, sur la végétation, et en particulier sur certaines espèces menacées et rares de ce parc-là. Alors c'est un exemple qui est assez connu, qui est souvent critiqué aussi, puisqu'on est sur une réintroduction et qu'on est aux États-Unis où effectivement les loups ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière que chez nous. Ils sont c'est la même espèce, hein, soyons clairs, c'est des sous-espèces différentes, mais c'est la même espèce, ils sont un peu plus gros. La blague à part, on commence à avoir quand même des décennies de retour sur ce qui est, sur l'impact du loup aussi en Europe, et y compris en France. Et on l'a précisé au départ de la balade, c'est en 1992 que les premiers loups ont été observés en France dans le parc national du Mercantour, donc à la frontière italienne, dans le sud-est du pays, sur les Alpes-Maritimes entre autres. Et sur ce territoire-là, qui était très riche et qui est toujours très riche en grands herbivores, on a des données aujourd'hui chiffrées de plus de 30 ans de présence du loup et de son impact sur ces populations d'herbivores. Donc effectivement, au retour du loup, les densités de chamois, de mouflons, de cerfs ont baissé dans le parc national du Mercantour. Logique, on a un prédateur qui revient, il faut aussi un apprentissage de la proie. La relation proie-prédateur est quelque chose de vraiment important. Et au final, bah, 30 ans plus tard, on est revenu à des populations à peu près équivalentes, sauf pour une espèce, le mouflon, dont on peut discuter la naturalité, hein, une espèce dont on ne comprend pas très bien d'où il vient et probablement issu de vieilles introductions humaines. Toutes les autres sont revenues à leur population initiale et surtout les pyramides d'âge sont beaucoup plus équilibrées. Donc l'état sanitaire de ces populations est bien meilleur et elles sont également beaucoup mieux réparties géographiquement sur le territoire du parc Mercantour, puisque le loup, au-delà de tuer des individus éventuellement en tant que prédation, il a aussi une énorme capacité, c'est d'empêcher les concentrations aux mêmes endroits, ce qui peut poser par ailleurs des problèmes pour le monde agricole qu'on connaît très bien par exemple avec le sanglier dans notre région. Et dernièrement, il y a eu des études dans la Drôme par exemple aussi qui a prouvé que près de 30% de la population de, une chute de près de 30% de la population de sangliers depuis le retour du loup dans ce département, où les surfréquentations par le sanglier en zone agricole posent d'énormes problèmes.
Vous conviendrez que ça, on en parle relativement peu en fin de compte. Hein. On parle systématiquement du loup et de l'impossible cohabitation entre ce grand prédateur et l'activité pastorale, alors que ce que vous venez de nous citer là est rarement évoqué par les médias en particulier, hein, dont on fait partie. Nous, on axe surtout sur un problème et on n'ouvre pas un grand angle. Hein.
Oui, complètement. C'est souvent d'ailleurs le problème de pas mal de visions. C'est jamais tout blanc ou tout noir. On pourrait élargir sur une autre espèce bien présente chez nous, c'est le renard. Effectivement, on va penser tout de suite au renard qui emmène la poule, mais on n'aura pas envisagé une poule perdue pour quelques milliers de rongeurs consommés dans la prairie.
Service rendu
à la nature. On est exactement dans la même configuration, au moins sur le principe. La problématique du loup, c'est qu'en plus, il a la mauvaise réputation, il a toutes les légendes qui le suivent avant. C'est vrai que le pauvre part avec un fardeau un petit peu marqué en la matière. Et voilà, il s'agit de se dire qu'il y a quand même des effets positifs, ou des effets en tout cas qui ne sont pas aussi négatifs qu'on vient de nous les présenter, ça n'est jamais tout blanc ou tout noir.
Le grand paradoxe sur l'histoire du loup, c'est que c'est quand même la souche qui a donné naissance aux chiens qu'on connaît. Quand on voit les relations qu'on a avec les chiens, on se demande pourquoi en fin de compte on a une relation si difficile avec le loup.
Alors je vais paraphraser un naturaliste du Massif Central qui disait que pour accompagner le retour du loup, il fallait pas de scientifiques ou de biologistes, il fallait des psychologues, voire des psychiatres. En fait, on touche à 100% à ça. Le fait d'avoir domestiqué le loup, obtenu le chien, il y a une forme d'hégémonie de main de l'espèce humaine là-dessus. Le loup sauvage, lui, n'obéit pas à cette règle-là. Et donc, effectivement, il y a quelque chose dans notre inconscient collectif qui fait peur, qui fait qu'il est incontrôlable. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans toutes les civilisations. Je pense que c'est important aussi de se replacer dans l'histoire. Rome a été fondée par Romus et Romulus, qui sont sauvés par une louve. Bizarrement, vous avez vu, on parle beaucoup de l'Italie depuis tout à l'heure. C'est un pays où le loup a toujours eu une place vraiment particulière. Pourquoi, comment, j'en sais rien, parce qu'ils sont aussi latins que nous, ou nous sommes aussi latins qu'eux. Voilà, il y a des approches qui changent un petit peu aussi dans le temps et suivant les populations. Le loup, c'est aussi le mythe en Europe du Nord, c'est aussi des demi-dieux dans certaines populations inuites. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec ces loups-là dans ces pays-là, mais il y a une approche qui est un petit peu différente d'un point de vue de notre psychologie collective.
H2O en balade H2O. Sur France Bleu Pays d'Auvergne.
suite et fin de notre balade H2O consacré au loup, animal mal aimé qui véhicule bien des mythes, des contes, des légendes. Un animal qu'on aimerait, enfin quand on est un petit peu amoureux de la nature, qu'on aimerait bien quand même potentiellement savoir sur notre territoire. On sait qu'il y a quelques passages, mais la présence permanente n'est pas vraiment aujourd'hui d'actualité. Le loup représente quoi pour vous, Mathieu Bernard, vous qui êtes président du groupe Mammalogique d'Auvergne et qui suivez de très près les mammifères ici dans notre région?
C'est, je suis un peu comme vous, d'un point de vue personnel, j'aimerais qu'ils soient plus présents, c'est évident. Je sais aussi que c'est une espèce, malheureusement, bien contre son gré, à problème. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que dès qu'on aura du loup sur un territoire, on va rentrer dans un processus malheureusement connu et beaucoup trop connu. Et notre grand regret, entre guillemets, mais on n'y peut pas grand-chose, on a pourtant tiré sonnette d'alarme, c'est qu'on n'a pas du tout anticipé le retour de cet animal, qui était prévisible et largement prévisible depuis les années 90.
On aurait pu l'anticiper comment ?
On aurait pu l'anticiper, par exemple, sur la notion des chiens de protection dans un certain nombre de troupeaux. C'est quelque chose qu'il faut du temps à accepter pour les éleveurs, et ça peut parfaitement se comprendre, c'est un changement de modalité d'exploitation. Et pour qu'un chien de protection soit bien intégré dans un troupeau, il faut parfois des années, il faut des chiots qui soient nés, qui considèrent les moutons comme leur mère. Voilà, c'est un processus qui est long. C'est pas quelque chose qui se décide le 1er janvier 2024 pour être en action en septembre 2024. Non, pour être en action en septembre 2024, il aurait fallu le décider le 1er janvier 2004. Sauf que voilà, on sait depuis en gros les années 2000 que le loup, à un moment ou à un autre, va revenir et va se reproduire dans le massif central français. Je dézoome un peu par rapport à l'Auvergne, mais voilà, et c'est le cas depuis 2 ans maintenant. Pour autant, les choix de politique publique, parce qu'on est vraiment uniquement là-dedans, n'ont pas fait ce choix-là et ont fait un choix différent que l'on retrouve aujourd'hui dans le nouveau plan national d'action pour le loup qui, en gros, simplifie énormément la destruction.
Dans la nouvelle version, date de 2023, il va courir jusqu'à 2028.
Bêtises pour le dernier. Voilà. Après, il ne s'agit pas d'interdire, à mon sens, en tout cas, et c'est mon avis totalement personnel pour le coup, d'interdire totalement l'option du tir, mais il faut que ça soit vraiment la dernière option. Et malheureusement, eh ben, on va au plus simple, on va au noir ou au blanc, et donc ben, c'est plus simple de dire qu'on va autoriser le flingage des loups de manière plus systématique et plus facilitée, parce que c'est ce qui se passe.
C'est un plan très manichéen, c'est-à-dire qu'on part du principe que si le loup est là, on a le droit de le tirer. Quoi.
En gros, c'est ça, et sauf qu'on ne prend pas du tout en considération l'impact, et là, c'est là où les biologistes devraient être écoutés, l'impact que ça a sur la structuration des populations de loups, et donc sur les dégâts qui sont engendrés. Et après, à titre vraiment plus personnel, ben, j'aimerais quand même le voir chez moi, effectivement, un jour. Quoi. Ça, c'est le rêve, d'être là, comme ça, presque l'ops à laquelle on ne s'attend pas. Je pense que c'est la meilleure.
Voire même de faire un petit bivouac nocturne en plein hiver. Et puis d'entendre au loin les hurlements d'une meute. Bon là, on délire complet, hein, malheureusement, parce que, en fin de compte, l'aménagement du territoire tel qu'il a été pensé ces dernières décennies ne laisse que très peu de place, en fin de compte, à ces animaux-là. Hein.
C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'état de nos connaissances, nos populations, et puis au fonctionnement du loup depuis une vingtaine d'années en Auvergne, on peut se poser réellement la question si un jour il y aura ou pas des meutes. Moi, je pense qu'il y aura un jour ou l'autre des meutes qui vont se reproduire en Auvergne. Ça me paraît pas impossible.
C'est pas de la science-fiction.
C'est pas de la science-fiction. Par contre, le nombre de zones réellement favorables va être extrêmement limité. On sera plutôt sur le sud de la région, je pense. Mais encore, qu'il faut se méfier, c'est là où le loup est génial et où c'est un véritable mythe pour de vrai. C'est que peut-être que la première meute, elle sera installée dans l'Allier et toutes mes prévisions seront tombées.
Troncé,
j'y crois pas trop. Il manque un peu de serre. Mais paradoxalement. Mais voilà, on sait que cette espèce est capable de s'adapter aussi en plaine. L'Allemagne est un très bon exemple. Hein. Le loup se reproduit aux portes de Berlin maintenant. Mais une fois encore, il y a eu une politique d'acceptation publique qui était totalement différente.
Il faut qu'il fasse sa place aussi à l'échelle de l'Europe. Et malheureusement pour le loup, il y en a un qui a eu la mauvaise idée d'aller croquer un poney d'Ursula von der Leyen récemment. Là.
C'est ça. Alors ça nous fait rire, mais ça nous fait rire un peu jaune. C'est pas une blague. Et de là est venue l'idée de se dire on va demander le déclassement au niveau européen de cette espèce, puisqu'on peut quand même rappeler que le loup est toujours protégé. Voilà, donc que les tirs normalement se font en cas de dérogation.
Mais le plan loup en France n'objecte pas l'idée de déclasser le statut de l'animal. Hein.
Complètement.
Donc de ne pas le considérer comme espèce protégée.
Ça n'est encore jamais passé, pour le coup. J'ose espérer que là, on reste dans de la science-fiction. Une fois encore, il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main toutes les problématiques que ça peut engendrer. Mais il s'agit juste de se mettre un petit peu autour de la table et arriver à discuter. Et il faut être honnête, on arrive à discuter avec un certain nombre d'éleveurs en région Auvergne, des gens qui ne sont pas bornés sur leur position, qui se disent aussi, bah, il va être là. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien? Et juste ce petit changement de dogme, ce petit changement d'angle de vue, il change complètement la donne pour la suite.
Et on peut conseiller à celles et ceux qui nous écoutent de voir le documentaire de Jean-Michel Bertrand, Vivre avec les loups, qui montre bien qu'effectivement on peut avoir une activité agricole pastorale en ayant la présence de cet animal.
Et que c'est faisable.
Merci beaucoup Mathieu de nous avoir accompagnés durant cette balade et de nous avoir parlé d'un animal qu'on ne risquait pas de croiser malheureusement. Quoique avec un peu de chance, on sait jamais.
On n'est pas encore revenu aux voitures.
Ouais, on a peut-être vu des traces, on disait peut-être un. En tout cas, on était ravis de parler du loup avec vous. Merci à vous.
Merci.
Le nouveau plan loup 2024-2029, mis en place pour la protection des activités pastorales, prévoit l'abattage de 209 loups pour la seule année 2024. Pourtant, le loup est protégé depuis 1989 en France, 10 ans après la Convention de Berne, qui le classait parmi les espèces bénéficiant de ce statut de protection. La France a décidé de favoriser le pastoralisme intensif au détriment de la biodiversité, tout en clamant que le loup a sa place dans notre environnement. C'est assez kafkaïen. La présence du loup dans la nature pose le problème du partage du territoire. Quelle superficie sommes-nous prêts à céder à la biodiversité? Et à contrario, quel espace sommes-nous prêts à sacrifier pour l'élevage ovin? Les réponses sont dans le nouveau plan loup appliqué jusqu'en 2029. Merci à Mathieu Bernard, président du groupe Mammalogique d'Auvergne, de nous avoir parlé du loup et de sa place dans l'Hexagone et en Auvergne. Merci à Céline Bonhomme-Monche pour l'enregistrement de ce reportage et à Valérie Pochefeux pour le mixage. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end à l'écoute de nos programmes et vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes dans la belle Auvergne.
Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.